VOA Afrique, les infos à Washington.
Lanit Talani devant ce microphone. Il est 23h à Goma, RDC, même heure à Ifondo, en République du Congo. Au Soudan, les manifestants continuent d'afficher leur détermination à obtenir un pouvoir civil. Ils ont afflué encore plus nombreux ce mardi devant le quartier général de l'armée, un jour après avoir réclamé la dissolution du nouveau conseil militaire de transition. Des centaines de professeurs et d'employés de l'université de Khartoum se sont mis à marcher vers le campus. Au lieu du sit-in, en brandissant des banderoles proclamant « Nous voulons un gouvernement civil de transition ». Les États-Unis, de leur côté, ont indiqué être prêts à se retirer le Soudan de leur liste des pays accusés de soutenir le terrorisme si le Conseil militaire de transition, qui a pris le pouvoir jeudi, engageait un changement fondamental de gouvernance, selon un responsable américain. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé un émissaire pour le Soudan afin d'aider l'Union africaine à conclure une médiation dans ce pays. Et il s'agit de Nicolas Eman, qui a déjà rempli des missions pour l'ONU en Somalie, en Afghanistan, au Soudan et au Soudan du Sud. Le Parlement égyptien a voté en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi jusqu'en 2030, selon le journal d'État Al-Aram et la télévision publique Nil TV. M. Sissi, accusé de graves violations des droits humains, a été élu en 2014. Avec 96,9% des voix pour un mandat de 4 ans, puis réélu en 2018. Le nombre de mandats était jusqu'à présent limité à 2. Mais le mandat actuel du président devait se terminer au bout de 6 ans. Mais le nouvel article permet de faire passer le deuxième mandat de Sissi de 4 à 6 ans, portant ainsi son terme à 2024. Et le chef de l'État égyptien pourrait en outre se représenter en 2024 à un troisième mandat de 6 ans. Le vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les prochains jours. Des armes et munitions transportées par des Européens, dont des Français, ont été saisies à la frontière entre la Libye et la Tunisie, a affirmé le ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zidi. Dans ses propos diffusés par plusieurs médias, M. Zidi a aussi déclaré que d'autres armes et munitions aux mains d'un deuxième groupe sous couvert diplomatique avaient été saisies à la frontière terrestre tuniso-libyenne. Il s'agissait, a-t-il ajouté, de 13 Français tentant de franchir la frontière à bord de 6-4-4. En Algérie, l'armée ne tournera pas ses armes contre le peuple, a assuré son chef d'état-major, appelant les contestataires à la patience et à ne pas perturber le fonctionnement de l'État et assurant que toutes les options étaient ouvertes pour trouver une solution à la crise. Et le président du Conseil constitutionnel algérien, Taïeb Belaïse, une des principales figures du régime visé par les contestataires, a présenté sa démission selon la télévision nationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RDC, le président Félix Tshisekedi a lancé aujourd'hui un avertissement sans précédent aux élus qui manipulent les groupes armés dans l'est du pays en les menaçant de poursuites pour complicité d'assassinat. J'ai averti tous les acteurs qui manipulent les groupes armés. La loi va s'appliquer à eux dans toute sa rigueur, a-t-il déclaré. Tous ceux qu'on arrêtera, qu'ils soient députés national ou provincial, pas question d'immunité. Il sera traduit devant la justice et condamné pour complicité d'assassinat. M. Tshisekedi a aussi annoncé le relèvement des groupes qui ont fait longtemps au Nord Kivu. Toujours en RDC, un très haut général sanctionné pour atteinte aux droits de l'homme a vendu des permis forestiers illégaux dans le pays qui abrite la deuxième forêt tropicale la plus grande au monde selon des accusations portées par l'ONG britannique Global Witness. Dans un communiqué, l'ONG vise le général Gabriel Amissi Kumba, alias Tangofo, un proche de l'ex-président Joseph Kabila, sanctionné par l'Union européenne et les États-Unis pour atteinte aux droits humains. D'après l'ONG, la famille d'Amissi a obtenu 5 concessions forestières en juin 2018, ce qui constitue une violation du moratoire sur l'attribution de concessions forestières industrielles en vigueur depuis plusieurs années en RDC, détaille Global Witness qui cite la société de la famille Amissi, Maniema Union. Pour terminer, l'Ouganda pourrait examiner une demande d'asile du président soudanais renversé Omar El-Béchir, qui est recherché par la Cour pénale internationale, d'après le ministre d'État ougandais aux Affaires étrangères, Henri Okello Oryem. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce bulletin. Je vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Robin, une journaliste canadienne, fait un reportage sur des critères de choix de candidats politiques. Elle tend son micro à trois personnes qui donnent leur avis et des critères de choix, parfois surprenants. Écoutons ce micro-trottoir. Nous allons écouter Robin et ses trois interviewés. Vous répondrez vrai ou faux, true or false, à ces deux énoncés. 1. L'habillement des candidats est important pour Mariam. 2. Pour Jacques, le niveau d'éducation des candidats est moins important que leur programme. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. De quel genre de candidat ne veut pas Mariam? 2. Qui mort regarde-t-il? 3. Qu'est-ce que tous les candidats ont d'après Jacques? Vous allez enfin apprendre à exprimer une intention en utilisant le futur avec will. Nous allons écouter Robin et ses trois interviewés.
Hello, listeners. I'm Robin Dwight. Today, I will be speaking to three very different people about how people choose a candidate during an election in this part of the world. Mariam, let's start with you.
The way a candidate dresses is very important to me. The right candidate must have elegance and use body language. Their hands, their voice, and their eyes are extremely important.
Moore, what do you think?
It's simple. I'll look at their wives or husbands. If they look happy, good. That means the candidates will make us happy.
Oh, come on.
Jacques, it sounds like you disagree. What do you look for in a candidate?
Most importantly, I consider the education level. We don't want ignorant people in office. We need educated candidates with a good program.
But Jacques, we can't trust their programs. Many candidates have nice promises and nice manners, but they will change their programs once they're elected.
Why not vote for the candidate you know personally? I will vote for my neighbor. He's a good candidate and a nice neighbor.
But he's not very handsome. And I don't like his accent.
I will vote for a candidate who will reduce prices and raise workers' salary.
Jacques, you don't agree.
Of course, I disagree. I have no salary. I run a small business, so I will vote for the candidate who will increase prices and decrease salaries.
Jacques, I'm so glad you're not a candidate.
Nous avons entendu Robin s'entretenir avec Mariam, Moore et Jacques. L'énoncé 1 est vrai. L'habillement des candidats est important pour Mariam. L'énoncé 2 est faux. Pour Jacques, le niveau d'éducation des candidats est moins important que leur programme. Voilà les réponses aux questions. 1. De quel genre de candidat ne veut pas Mariam? De candidat ignorant. 2. Qui mort regarde-t-il? Les femmes des candidats et les maris des candidates. 3. Qu'est-ce que tous les candidats ont, d'après Jacques? Une bonne éducation et de belles promesses. Écoutez et répétez ces phrases de Mort et de Jacques.
I will vote for my neighbor. I will vote for a candidate who will reduce prices.
I will vote for the candidate who will increase prices.
Moore et Jacques ont utilisé le futur simple avec will, qui est invariable à toutes les personnes. On pourrait dire, he will change the law. He will improve agriculture. Ce futur exprime des intentions, pas des actions certaines à venir. Vous pouvez aussi utiliser la contraction I'll ou he'll, etc. pour exprimer les actions futures et des intentions. Par exemple, I'll vote for my neighbor. He'll change the law.
You make me proud. Vous avez entendu Robin et ses invités. Vous avez vu que les critères de sélection d'un candidat peuvent être très différents. Vous savez aussi exprimer des intentions avec will. Et vous, pour quel candidat voterez-vous? Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michelle Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, please call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, when speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.
When should we use? Quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms.? Miss, mademoiselle, ou, comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women. Les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées. For married women.
Well, miss is for single women. Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms. Un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Cette fois-ci, nous sommes à un mariage. A wedding. Mark Lerner va interviewer un vieillard, an old man, un centenaire. Le jour du mariage de son arrière-petit-fils, great-grandson. Vous apprendrez à vous informer de l'état de santé des gens autour de vous et aussi à comprendre par quelles expériences ils ont passé. English USA est diffusé en direct de Washington, au micro Michel Joseph. Nous verrons aujourd'hui comment Martin va interviewer un centenaire, an old man who is 100 years old. À l'occasion du mariage de son arrière-petit-fils, his great-grandson's wedding. Il va aussi interroger la famille. How is Mr. Bishop? Comment va Monsieur Bishop? He's fine, he looks good. Il va bien. Il a bonne mine.
Hello, Mrs. Willis. I want to thank you for inviting me to the wedding and the reception.
You're welcome. I wanted you to see my grandfather with the family.
Is family very important to him?
Family is very important to him. And he's very important to the family. He's the one that wanted you to come to the wedding.
How is Mr. Bishop today?
He's wonderful. He loves a celebration. Of course, he pays for it later.
What do you mean he pays for it later?
He eats too much. He drinks too much. He gets tired very quickly. Look at him now.
He's the center of attention.
After the bride and groom, he's the most popular guest. Have you met the bride and groom?
I know the bride. I met the groom only briefly.
I forgot. Of course you know the bride. She's a friend of your family.
That's right. I've known the family for years. I'd like to talk to the groom.
Certainly. Come with me.
Not
Troy. I'd like you to meet Mr. Lerner.
Oh, hi. You're the reporter here to talk to Great-Grandpa Jack.
That's right. And congratulations to you.
Thanks. Isn't my wife beautiful?
Yes. You're very lucky.
You want to talk about Grandpa Jack, not the bride, don't you?
I don't mind talking about the bride. She's the one that I know already. But I do want to talk about your great-grandfather.
This is his house. Did you know, Melissa's family wanted to have the reception at their house, but Grandpa Jack insisted. We thought it would be easier for him in his own house.
How is he?
He's fine. He's very old, of course. He's 100 years old.
He looks very good. Is he healthy?
Quite. He exercises. He watches what he eats. He's very thin, but not too thin. My mother takes good care of him. Have you talked to him?
Not yet.
Would you like to meet him now?
Of course, but I don't want to interrupt.
That's all right. He's talking to neighbors.
I'll introduce myself. You get back to Melissa.
Thanks.
Hello there.
Good afternoon. I'm Martin Lerner.
Jack Bishop.
How are you, Mr. Bishop?
I'm perfect.
Perfect. That's wonderful.
For 100-year-old.
Quand on parle de la santé d'un individu ou d'une personne, on peut demander s'il a l'air bien ou non, comment il se sent ou ce qu'il fait dans la vie courante. On peut le demander à la personne elle-même. How are you? How are you, Mr. Bishop? Comment allez-vous, Monsieur Bishop, par exemple? Ou à quelqu'un autour de lui. How is Mr. Bishop today? Comment va Monsieur Bishop aujourd'hui? Écoutez, Martin.
How is Mr. Bishop today? How is he? Is he healthy? How are you, Mr. Bishop?
Pouvez-vous maintenant vous informer de la santé de quelqu'un? Demandez à Martin comment vont les personnes qu'il va présenter. Commencez vos questions par « How is ?» Par exemple, il vous dira « That's Mr. Jack Bishop. » Et vous, vous allez répondre à Martin « How is Mr. Jack Bishop ?» Ou bien vous allez lui dire « How is his health ?» Comment va sa santé ? Exerçons-nous à nous informer de l'état de santé de quelqu'un. Mettez-vous à la place de Martin Lerner, vous êtes en famille, et ce qui vous intéresse, c'est l'état de santé de quelqu'un qui est plus âgé. Par exemple, vous demanderez à votre frère, qui est là près de votre grand-père plus souvent que vous, vous lui demanderez « How is grandfather? How is grandfather? » Comment va grand-père? How is his health? Comment va sa santé? Il se peut que votre frère réponde, He's fine. Et vous, vous répondrez aussi, He looks good. Il a bonne mine. He looks good. Et le frère, votre frère, répondra encore en affirmatif, He's doing well. Il va très bien. He is doing well. En général, quand on demande « How is he ?» ou bien « How is she ?» cela implique la santé, c'est-à-dire au-delà de comment va la personne tous les jours. Comment va-t-elle vraiment ? Comment va sa santé ? Comment se porte-t-elle ? Et revenons encore un peu à la santé, et cette fois-ci, moins positivement. Imaginez-vous que le grand-père réponde différemment. Alors, vous demandez au grand-père, « Hi, granddad !» Comment vas-tu, grand-père ?« Hi, granddad !»« How do you feel ? How's your health ?» Tout d'abord, « How do you feel ?» contraction pour « How do you feel ?» ou bien « How are you feeling ?» Comment te sens-tu ?« How are you feeling ?» Il se peut que le grand-père réponde « I feel old. » Je me sens vieux. « I feel old. » Ou bien encore « I feel terrible. » Je me sens terrible. « I feel terrible. » Et si vous voulez dire le contraire, vous allez dire à votre petit frère, là. Isn't he terrific? N'est-il pas fantastique, quand même? Il a un sens de l'humour. Isn't he terrific? Et vous tournez vers le grand-père et vous lui dites en souriant, pour lui remonter le moral, vous lui dites, You look wonderful. Vous avez l'air fantastique. You look wonderful. How do you feel? How are you? Are you healthy? Êtes-vous en bonne santé? Exercez-vous à demander ces mêmes questions et à donner des réponses à ces questions. Practice hard. Until next time. Goodbye. Ici Michel Joseph.
Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait! Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com et en ondes courtes le samedi et le dimanche à 20h temps universel. Ne ratez pas English USA.
Welcome to Anglais Tiné. I'm Michel Joseph and I have with me my co-host.
And I'm Roger Muntu.
And we have a wonderful guest student from France.
Hello, my name is Eva.
Thank you both for being with us. And today we're going to go over the prepositions again, this time using verbs, because it's a bit complicated, so we want to understand. And I chose two verbs. Can you guess which verbs are the most well used in English? Active verbs, of course. Active.
To go.
Ah, excellent.
That's a good one.
There we go. Okay, the lesson's over,
that's
guys.
That's active. She already knows.
It's over.
Yeah.
To go. Yeah. What about you? What do you think?
What about to get?
To get, yeah, I think to go and to get.
Yeah.
I think those are major verbs in English.
Yeah.
Let's add a few tidbits of prepositions here.
That's right.
Add a preposition with to go. Let's see how that sounds.
Okay. Do you want a preposition?
Yes,
with,
a quick reminder. In, out.
Okay, over.
So... Put it together. Let's see how that sounds.
Over, in,
no,
between, no?
What? To go and to go.
Okay.
To go in.
That's it.
Wow.
To go in.
Wow.
To
get over?
To get over. Okay. Well, we're going to warm up anyway. Let's warm up together, all of you. Okay. We're going to warm up.
Mm-hmm.
That's also a combined verb with a preposition. To warm up.
Up. That's correct.
All right. So let's do some more examples with to go, adding prepositions. Go ahead.
To go in, to go on. To go between.
What about with to get?
To get in.
To get in.
To get over, like we were saying earlier. To get by.
To get by.
Mm-hmm.
Okay, now what about creating a sentence with that, with your two examples? To go in, add a sentence with that, create a sentence.
To go in a house.
To go in a house, okay.
Mm-hmm.
And you with to get?
To get over an illness.
To get over an illness.
Mm-hmm.
That's perfect.
Mm-hmm.
And let's see, we have a few here. To go beyond. Are we going beyond what we did a few lessons ago? I think we are. We're going beyond?
Yeah.
Okay.
I think we're going beyond. Beyond. Do you know what we're going beyond? Beyond.
Beyond, ahead.
Yeah.
Okay. In front.
Yeah.
Okay.
Right.
Okay, so we're moving.
Moving.
Forward.
Going beyond.
VOA